mieux. Ah ouais.
Ok, rien à cacher. J'ai rien
non, mais je.
Ça ne va pas les intéresser. On n'a pas des, on n'a pas des secrets. Comment dire? On n'a pas des secrets, tu vois, que, avec quoi tu peux faire l'argent. On n'a que des secrets comment atteindre le bonheur. Mais autrement, ouais. Les gens, ils croient qu'on voudrait faire de l'argent avec ça, mais
ouais.
Ça marche peut-être pas.
Je ne sais pas si Antoinette a oublié ou si...
Antoinette était là ce matin pour la pratique, parce que si on fait une pratique tous les matins à 9h, de ses mantras, que, je ne sais pas si ça vient exactement de sa sainteté, mais en tout cas, c'est tous les mantras qu'il y a plein de maîtres qui ont dit que c'était bon. Tu ne connais pas, Séverine?
Si, j'ai vu le texte avec Geshe-Zopa.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Donc, on fait ça tous les matins parce que moi, je l'ai reçu de plusieurs côtés. Pas de la FPMT, mais de plusieurs côtés. Et je trouve que c'est, moi, je peux bien faire parce qu'il y a beaucoup de TUT, il y a beaucoup de mantras. Ça dure, bon, si je dis rien, ça dure une demi-heure, mais normalement, je dis un peu quelque chose. Donc, ça dure 40 minutes et puis moi, je trouve que c'est très inspirant parce que c'est quelque chose qu'on peut faire sans que ça devienne trop, tu vois, trop de temps et tout ça, et puis on a quand même, on se connecte avec tous ces Bouddhas.
Personne,
ouais. Donc, Antoinette, elle a commencé aussi à nous joindre tous les matins.
Bonjour, bonjour.
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 Adieu. Adieu. Hey.
Hey, ciao.
Va. La vie est belle.
C'est belle. On peut la faire belle, c'est à nous de la faire belle.
Exactement, puisqu'on est là.
Ok. Ok, donc je voudrais commencer avec une petite méditation. Ça va pour vous?
Très bien.
Très bien. Okay. Donc vous essayez de vous mettre à l'aise. Et avec un 2-3, si ça va, mais sans renforcer. Et puis vous vous connectez avec votre corps.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
On a commencé la méditation, peut-être on a commencé un peu trop tôt, mais ça, c'est pas grave. C'était sympa ton petit bonjour de toute façon. Ah, c'est super, merci Christian. Parce que, ok, je vous ai dit, vous vous connectez avec le corps, ok? Donc on est dans le corps, on est neutre, on n'est peut-être pas très ici. Après on entend un bonjour très sympa. Après, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? C'est pour ça qu'on médite au fait. Qu'on remarque ce qui se passe, et puis ça se passe très très vite. Est-ce que vous avez remarqué que quelque chose a changé? On peut discuter après, mais maintenant vous regardez pour vous. Quand Christiane n'était pas encore là, elle n'a pas dit bonjour. Comment je me sentais? Après j'ai entendu sa voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une sensation de connexion, de bienveillance, d'amour, ou peut-être des pensées. Qui sait? Qui est-ce qui disturbe? Qui est-ce qui dérange ma méditation? Je dois fermer les micros. Non, c'est bon, c'est bien, c'est vraiment super. Parce que là, on peut se servir de ça maintenant. Et puis de ressentir, parce que c'est ça qui est important, de ressentir ce qui se passe dans le corps quand on a des pensées. De ne pas se juger, de juste voir et de tout être là. Tout appartient, tout a un droit d'être là. Et puis de voir la dynamique de nos émotions, que quand on ne regarde pas, on les prend comme solid like a brick, comme solide comme une pierre. Mais une fois qu'on est avec les émotions, déjà l'émotion n'est plus moi. On n'est plus l'émotion parce qu'on a, on est sorti et puis on est dans la conscience. Le fait de remarquer. Donc, c'est plus la même chose. Donc, l'émotion, elle tourne peut-être encore, mais elle vous tient plus. Donc, on n'a pas besoin de refouler quoi que ce soit, on n'a pas besoin de suivre. Mais ce qui est important, c'est de regarder, de remarquer, de savoir ce qui se passe. Et vous faites, et je sais que c'est très étrange, de permettre que ça soit là. Parce que c'est en permettant que ces émotions sont là, qu'ils peuvent se calmer, et puis le cœur, il peut s'ouvrir. Parce que quand on les regarde, sans les nourrir, parce que aussi vouloir qu'ils ne soient pas là, c'est aussi une forme de nourrir nos émotions négatives. En les permettant d'être là, ils nous montrent leur nature d'impermanence. Donc voilà, donc vous êtes connecté avec votre corps. Je ne sais pas si on a déjà fait, mais l'autre jour, j'ai lu un truc que j'ai trouvé très helpful. J'ai trouvé que c'était très bien pour faire ce body scan parce que c'est un peu plus simple. Parce que moi, quand je suis toute seule et puis il n'y a personne qui guide, je commence avec les pieds et puis aux genoux, je suis déjà ailleurs. Je ne sais pas comment c'est avec vous. Et puis on ne peut pas seulement méditer quand il y a quelqu'un qui nous guide. Cette méthode, elle s'appelle CALM. C-A-L-M. Donc, il y a quatre lettres. Donc, c'est quatre parties du corps. Donc, le C is the chest. C'est la poitrine. Ah, si, on a fait avec vous, je crois. C'est la poitrine. Donc, vous allez dans la poitrine ou tout le corps en haut, là. The upper body. Vous allez avec votre. Vous remarquez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Vous êtes complètement là, sans vouloir qu'il y a autre chose. Ça, c'est difficile. Sans manipuler quoi que ce soit. Juste être là, observer. Devenir peut-être un peu plus grand quand vous expirez, que vous imaginez, que vous vous ouvrez, que vous devenez très vaste, plus grand que vous êtes. Et puis, vous regardez si ça fait un effet. Si ça fait un effet, vous savez que c'est très simple, vous pouvez le faire. Si ça ne fait pas d'effet, ça ne fait pas d'effet pour le moment, vous pouvez continuer à pratiquer. Ça ne veut pas dire que ça, à chaque fois, il faut avoir un effet. Pour le moment, il suffit de regarder, d'être là, remarquer les sensations qu'il y a dans la poitrine et aussi dans l'estomac, dans le dos, cette partie du corps, et en expirant, on s'ouvre, on permet à tout d'être là, tout ce qui veut être là, ça appartient, il belongs, on peut laisser là. C'est les bras, arms. Donc, vous pouvez inclure les épaules. Donc, d'abord, vous êtes conscient des épaules. Même chose, en inspirant, vous remarquez les sensations sans juger, sans vouloir autre chose. En expirant, vous ouvrez, vous devenez soft, tendre. Il n'y a rien qui tient. Complètement détendu, vous ouvrez, vous devenez vaste, Après, vous descendez les bras jusqu'aux mains. Après, c'est le L, legs, donc les jambes. Même chose, vous pouvez commencer par les hanches ou avoir une image complète des jambes, des pieds, des genoux. S'il y a douleur, on essaye de les accepter, de s'ouvrir, de voir s'il y a une différence, si je suis complètement avec la douleur, j'essaie de reconnaître comment elle est en me demandant si elle est chaude ou froide, si ça tire ou si ça pousse. Et puis de surtout pas vouloir contrôler cette émotion, cette sensation désagréable. Permettre d'être là comme objet de méditation, par exemple. La douleur, elle est super comme objet de méditation parce qu'elle est très facile à trouver, à tenir. Après, vous remontez au visage, donc il y a M, donc je pense que c'est mouth, je ne me rappelle plus. Ça pourrait être la bouche, mais ce n'est pas que la bouche, c'est tout le visage. Et c'est là, en tout cas moi, je ne sais pas comment c'est avec vous, souvent je tiens des petites tensions. Les joues, the jaws, là où il y a les dents, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Les mâchoires.
La mâchoire. Autour des yeux, ou behind the eyes, ou derrière les yeux. Essayez de laisser tomber les yeux, enfin, pas tomber par terre, mais de ne pas les tenir pour regarder tout droit, mais de vraiment les baisser. Parce que aussi pour les tenir, pour regarder tout droit, il faut des muscles. Donc c'est aussi on relâche ces muscles. Essayez de voir si vous voyez une différence. C'est ça. La vigilance, est-ce que je vois une différence quand je fais ça? Ou est-ce que c'est pareil? Après le front. Après le haut de la tête. Et après derrière. Et puis après, on fait quelques moments de méditation silencieuse. Je vais vous laisser. Vous pouvez choisir votre objet. Et puis, pour choisir l'objet, ce qui aide, des fois, c'est aussi de voir dans quel état l'esprit est. Donc, si vous avez beaucoup de pensées, on prend prend comme, par exemple, la respiration, on prend l'abdomen. On sent comment il se gonfle et se dégonfle. Quand vous êtes plutôt fatigué, vous prenez le nez. Et quand vous êtes tendu, vous n'arrivez pas à vous détendre, vous prenez tout le cercle où vous imaginez que vous respirez avec le corps entier. Que chaque fois que vous inspirez, qu'il se gonfle un peu, et après il se détend. Donc c'est bien d'essayer un peu, et puis après de choisir ce que vous trouvez, ce qui est le plus bénéfique pour vous, ce qui marche le mieux pour avoir un esprit détendu mais réveillé. Donc il y a les deux choses, c'est pas juste être détendu, il faut aussi être réveillé. Complètement là. Donc, si vous avez un objet de méditation, il faut que vous vous sentez confortable avec cet objet. Par exemple, des fois, si les gens ils prennent la respiration, tout à coup, il y a la panique qui vient. Donc, prenez un son, par exemple. Vous prenez juste le fait que body is sitting, que le corps est assis. Prenez une odeur. Remarquez si l'esprit part de l'objet. Et bien sûr, il va partir, c'est normal, il va partir dans les pensées. Donnez-vous le choix de ne pas devoir suivre les pensées. Ne dites pas « Oh, je n'ose pas suivre les pensées, ça ne sert à rien. » Et donnez-vous le choix de ne pas les suivre. Laissez-les tels qu'ils sont. C'est normal, l'esprit pense. C'est sa fonction, l'esprit conventionnel, mais on n'a pas besoin de faire une histoire chaque fois. Et peut-être remarquer, des fois on a l'impression qu'on peut être avec la respiration et avec les pensées, oui c'est vrai, mais on n'est ni complètement à la respiration ni complètement avec les pensées. Donc, essayez de constater, de voir que si vous êtes complètement avec votre objet, les pensées ne sont pas là. Au moins pour un petit moment. Donc, le corps comme objet, le corps entier comme objet, ou respirer avec le corps entier, c'est un objet qui est très facile à trouver. Il est assez gros, il est assez grand. Parce que si l'objet il est trop subtil, et l'esprit n'est pas entraîné, on va le perdre sans arrêt, on perd le courage, on arrête de faire ses méditations. Donc, appliquez maintenant un peu d'effort pour presque presser votre attention sur l'objet et aussi de voir ce qui se passe, de remarquer. Parce que c'est pour ça qu'on fait ces méditations. C'est pour voir les choses telles qu'elles sont, c'est pour connaître les choses, c'est pas juste pour se calmer. C'est pour regarder avec un esprit calme. donc avec cet esprit calme et ouvert, on essaie de faire de nouveau une observation, une petite réflexion. Donc, essayer de trouver la pensée de « I am special », « Je suis spécial », ce que ça fait avec vous. Donc, pensez ou pour trouver, c'est bien de penser « Je suis spécialement nul », mais ça peut aussi être « Je suis spécialement bien ». Cette « self-importance » that we have, cette importance de nous-mêmes qu'on a instinctivement. On se sent séparé des autres et on est spécial. Le problème, c'est que souvent, on ne remarque pas qu'on pense comme ça ou on se sent comme ça. Mais c'est subtilement, c'est toujours là. Je suis spécial. Donc, essayez de remarquer la sensation que ça vous donne, le feeling of it. Et après, on prend un peu un point de vue plus réalistique. Et puis, on pense, si je regarde l'univers, avec tous les êtres qu'il y a dans l'univers, et je remarque que moi, je suis juste une minuscule, petite part de cet univers. Regardez ce que ça vous fait, cette pensée. Ça, c'est la réalité. Et vous pouvez changer entre les deux jeux. C'est presque on a les deux jeux. On a un jeu qui n'existe pas, mais qui nous donne des conseils, qui nous guide, qui nous mène à faire toutes les conneries qu'on fait. Et on a le jeu conventionnel qui voit la réalité. Je suis pas du tout spécial. Je suis spéciale parmi tous les autres êtres qui sont aussi spéciales. Alors, je ne suis pas du tout spéciale parce que tout le monde est spécial. And try to switch from one to the other. Essayez d'aller d'un à l'autre pour voir la différence. Parce que c'est important quand on parle de bodhicitta de sentir cette saisie du jeu, self-cherishing, qui n'est pas réel, qui n'est pas là. Parce que sinon, on parle, et puis on n'a rien compris. Et aussi en pensant, je suis une petite part de cet univers, on ne tombe pas dans le nihilisme qu'on croit qu'on est personne. Donc, avec ça, on peut éviter les deux extrêmes. Alors là aussi, j'aurais dû vous prévenir, ça aussi on peut intégrer dans la méditation parce que quand on entend ça, sent ça, comment il se sent? Il est content que c'est fini ou il dit, oh, pourquoi c'est déjà fini? Ou comment? Ce feeling du jeu, comment on dit feeling? La sensation du jeu?
Le ressenti.
Hein?
Le ressenti.
Le ressenti du jeu. Est-ce que vous avez trouvé votre jeu? Question. Presque tous vos micros sont ouverts, donc vous pouvez dire quelque chose.
Moi, j'ai pas trouvé grand-chose.
Ok.
Quand je vais vers le jeu déprécié, j'y crois pas. Quand je vais vers le jeu superlatif, j'y crois pas. Et quand au milieu, c'est comme un gouffre avec l'océan, cette petite goutte qui est là. Et puis, j'y crois pas grand-chose non plus.
Hey, c'est pas une question de croyance, Sophie. C'est une question.
Non, mais je le ressens pas. Je le ressens pas.
Voilà.
Pardon. Ouais. Mm-hmm.
Vous avez fait les tâches que je vous ai données, les devoirs de faire.
Oui.
Chaque fois que vous sentez que vous êtes nul. Alors, quand vous sentez que vous êtes nul, est-ce que vous ressentez le jeu?
Oui.
Oui. Quand même. Il y a quand même des moments où. Et puis, mais ce truc, je suis spéciale, tu n'as rien ressenti. Tu vois, au début, c'était la pensée je suis spéciale. I'm special. Peut-être on ne dit pas comme ça en français, je ne sais pas.
Oui.
Je suis spéciale. Tu vois, on a un peu ce truc, par exemple, quand on est dans le magasin, puis on a déjà des idées, ce qu'on veut. Alors, et puis après, on croit qu'on est assez spécial pour que tout le monde fait ce que moi je veux que. Et merci, Sylvie. Vous avez lu ce que Sylvie a écrit?
Oui.
Il y a le resserrement de l'estomac. On le sent quelque part. Tout à coup, ça devient. Le jeu devient grand, mais c'est pas confortable en général. Hein? Surtout quand on pense qu'on est nul. Quand on pense qu'on est super, c'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est, tu vois, que quand on a du succès, que oui, c'est un peu un bon feeling, mais il est mélangé un peu avec peur qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient qui est mieux que moi ou qu'il y a personne qui voit à quel point je suis spéciale. Je ne suis qu'une part de l'univers d'élargissement de la poitrine. Exactement, c'est ça. Donc, Sylvie, elle nous, même qu'elle ne peut pas parler, mais elle nous répond. Vous pouvez écrire aussi, hein, comme Sylvie, même si vous pouvez parler, si vous préférez écrire, vous pouvez écrire. Et puis, ce que vous avez à faire. Donc, je crois que chaque fois qu'on est en contact avec ce qui est réel, réel, bon, de nouveau, réel d'une façon conventionnelle, mais ce truc, moi, je suis spécial parmi tous les autres êtres qu'il y a dans l'univers, c'est un peu exagéré quand même. Non? Ouais. Un petit peu. Mais on a cet instinct. L'instinct, il est là. Et puis c'est pour ça qu'on a des problèmes. Et puis après, si on a des attentes, et puis si les attentes, elles ne sont pas. Ils ne sont pas remplis, réussis. Hein? Puis, voilà, d'après, on est déçu, on se fâche, ou on dit, oh, je ne le mérite pas. Tu vois, toutes ces choses-là, et puis ça crée des problèmes. Tandis que si on est en contact avec. Ce qui est réel, ben, moi je suis. Si on met tous les êtres ensemble, tu vois, est-ce qu'on me verrait? Je pense pas. Et puis c'est pour ça que je voudrais. Est-ce que je peux screen sharing? Moi je peux, je crois. Hein, ici.
Je crois, ouais. Je crois que tu okay. peux. Ouais.
Est-ce que vous voyez ça?
Ouais.
Oui.
Oui, oui. Oui. Donc ça, c'est, j'adore ça. Et puis ça, c'est de nouveau Albert Einstein qui est mon... Je suis totalement fan de Albert Einstein. Parce qu'il a eu tellement de... pas seulement l'intelligence extraordinaire, mais aussi une sagesse extraordinaire. Et puis, d'ailleurs, il a dit, il n'a pas dit, moi, je suis sage, mais comme les choses qu'il dit, on voit que c'est un grand sage, parce qu'il a dit, l'intelligence dans le monde, elle grandit, mais the wisdom doesn't. Mais la sagesse, elle ne grandit pas. J'espère que maintenant, justement, avec ce qui se passe en ce moment, avec le coronavirus, mais peut-être la sagesse, ce qui est vraiment important pour être heureux, bon, j'espère que ça va grandir. Donc, un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace, nous, tu vois. Déjà, on se voit comme individu. Individu, ça veut dire pas divisible. Déjà ça, c'est complètement faux. On est une partie de quelque chose qui est much bigger than I am. Et même moi, je suis divisible. J'ai un corps, j'ai un esprit, le corps, on peut le diviser. L'esprit, il a beaucoup de parties. Tu vois, déjà, quand on dit an individual ou un individu, c'est, je ne sais pas d'où vient cette expression. Déjà là, on se sépare au fait de ce qui est. Et puis après, on perd la connexion. C'est pour ça qu'on va mal. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion optique de la conscience. Et surtout quand on se sent nul, on se sent séparé de tous les autres. Surtout quand on a fait des bêtises, et puis on est plein de honte et plein de... What encore? Honte, shame and embarrassment. On est... Aidez-moi un peu là, les francophones.
Embarrassé.
Hein?
Embarrassé.
Embarrassé, on a honte, on se sent coupable. Tout ça, c'est là l'ego il devient vraiment immense. Et puis ça sert tout ici. Et puis on se sépare des autres parce qu'on a honte. On voudrait pas qu'ils sachent comment je suis tout ça. Et puis il y a la peur que quelqu'un va peut-être la peur. La honte vient toujours avec la peur. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses. On a peur de quoi quand la honte elle est conjointe à la peur.
On a peur d'être critiqué.
On a peur d'être critiqué parce qu'on croit qu'on est special, qu'on est spécial, qu'on est voilà en dessous de tout le monde. Donc il y a quelqu'un qui pourrait détruire cette vue fausse de toute façon. On a peur d'être critiqué, on a peur, quoi encore?
De plus être aimé.
Ça, je crois que c'est la peur la plus grande. De perdre l'amour de quelqu'un parce qu'on doit se la mériter, l'amour de quelqu'un. Donc, on peut perdre l'amour de quelqu'un, mais ce qu'on peut faire pour avoir contrôle là, c'est d'avoir l'amour pour les autres. Tu vois, ça, on peut, mais de forcer les autres de m'aimer, moi, je ne peux pas. Hein. Même des fois, moi, je suis très gentille, et puis les gens, ça les agace. Tu vois. Et puis, je voudrais les aider, tout ça, et puis, bah, laisse-moi tranquille. Donc, voilà. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on a cette illusion optique de la conscience? Quand on parle de vacuité et puis de pas avoir d'avoir des vues fausses, au fait cette vue fausse c'est une it's a cognitive error, c'est une erreur cognitive. Et c'est pour ça on peut l'éliminer. Donc il faut juste voir juste. Mais on s'est entraîné tellement à avoir faux pendant des vies. Que l'habitude de voir faux, elle est tellement forte que voilà, il faut beaucoup d'efforts, il faut faire beaucoup de choses pour changer cette vue-là. Alors, il dit, cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. C'est-à-dire, on se limite nous-mêmes, tu vois, on aime ceux qui, en fait, on aime on aime les faux, on aime ceux qui me font du bien, on aime ceux qui m'affirment encore mes vues fausses. Tu vois, qui disent, ah, t'es tellement spécial, t'es super, t'es formidable et tout ça. Ceux-là, on aime. Ceux qui disent, mais ouf, t'es vachement ordinaire. Non, c'est rien de spécial. Tu sais, ceux-là, ils nous aideraient au fait à trouver la réalité, mais après, on ne les aime plus. Parce qu'on ne veut pas entendre. Hein. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Des fois, ces citations, des fois, ça continue en disant, en allemand, par exemple, ça continue. Et comme il a tout écrit en allemand, enfin, au début, il a tout écrit en allemand, après en anglais, je fais plus confiance quand même un peu. Et puis, ça continue en disant, ça va pas être possible pour un être de faire ça complètement. De embrasser toutes les créatures vivantes. Mais il dit, mais juste le fait d'essayer de faire ça va vous donner une stabilité mentale, va aider à votre stabilité mentale. Un inneres Gleichgewicht, ou intérieur plutôt, un inneres Gleichgewicht. Like that. Vous êtes d'accord avec M. Einstein?
Mm-hmm. Hein? C'est vacuité et bodhicitta.
Oui, c'est les deux choses, exactement. Tu vois, donc Einstein, c'était un juif, c'était un scientifique, il n'était pas du tout bouddhiste, mais c'était quelqu'un qui recherchait la réalité, pas seulement extérieure, comme beaucoup de physicistes. Comment on dit physicistes en
anglais? Physicien.
Hein?
Physicien.
Physicien. C'est un médecin, non?
Non.
Non.
Un médecin, c'est quoi? Hein?
C'est un scientifique, un autre.
Ok, un scientifique, un physiciste, lui, il n'a pas cherché à l'extérieur, mais lui, il a aussi cherché à l'intérieur. Il a vu pourquoi on ne va pas bien. Comme on a lu la dernière fois, on a lu quand il dit l'amour, c'est une force dans l'univers, qu'on ne se rend pas compte que tout le monde, on peut créer une bombe d'amour et puis la diffuser, quoi. Comment on peut diffuser la nervosité, puis la peur et tout ça, c'est contagieux. Aussi l'amour et la joie, c'est contagieux. Et puis comme aussi ça, it's attracting. Si vous aimez quelqu'un, mais sans attachement, vous devenez attractif pour les gens. Parce que vous leur permettez aussi de vivre leur côté positif. Parce que vous le voyez. Et puis comme vous ne les énervez pas trop, comme je vous ai dit, ça peut aussi être énervant si quelqu'un est trop gentil avec nous. Donc, il n'y a rien qui est juste ça, ça peut aussi être le contraire. Et puis comme, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'être défensif, parce qu'il ne nous attaque pas, il ne nous critique pas et tout ça. Donc, ça nous met en contact avec notre côté positif. Et puis, c'est pour ça qu'on aime ces gens-là. Parce qu'ils nous montrent notre côté positif et puis on aime bien voir le côté positif. Tandis que les autres qui nous énervent ou qui nous font monter le lait et puis la colère, voilà, ben, ceux-là, ils nous montrent notre côté négatif. Voilà, donc ça c'est le PowerPoint que j'ai fait pour les gamins dans la maison des religions. Vous voulez voir?
Ouais. Oui.
Parce que ça peut aider un peu. Je sais pas. Ah voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Voilà, donc là les gamins ils doivent me dire est-ce que ça c'est une geste du Bouddha officiel ou pas? Ou enfin, est-ce qu'ils voient la différence entre le geste du Bouddha qui est assis dans la salle ou celui-là? Et j'explique ce que Nicolas nous avait expliqué avec le Namaste gesture, le geste Namaste. Hein? Vous vous rappelez, ceux qui étaient là?
Non.
Hein? Jean-Paul.
Non.
C'est bon. Non,
aujourd'hui, je ne me rappelle pas aujourd'hui.
Ok, ben demain.
Demain peut-être.
Ouais, tu connais l'histoire de celui de demain. qu'il y avait deux amis, donc ils étaient très amis. Et puis, c'est Keshitachi qui l'a raconté ce matin. Moi, j'ai trouvé super. Donc, un, il était très intelligent, mais il n'avait pas d'argent. L'autre, il était un peu bébête, mais il avait l'argent. Donc, il est venu chez celui qui est intelligent. Il est allé chez l'autre. Il a dit, écoute, j'ai vraiment pas d'argent. Est-ce que tu peux m'en prêter? Et puis, l'autre, il dit, oui, mais il faut qu'on fasse un contrat. Il dit, oui, je vais te faire un contrat. Je vais te faire un contrat. Alors, l'autre, l'intelligent, il écrit le contrat. Il dit, je te donne l'argent demain. Voilà. Et puis alors, celui avec l'argent, il s'est dit, oh, ben, là, il n'y a pas de danger, je peux lui donner l'argent parce qu'il me le donne demain. Alors, le lendemain, il est allé chez lui et puis il a dit, est-ce que tu peux me donner l'argent parce que tu m'as dit que tu me le donneras demain sur le contrat. Il dit, oui, je te le donnerai demain. Ouais. Chaque fois que l'autre, il est venu, est-ce que tu peux me donner l'argent? Il me dit, ouais, ben, je tiens au contrat, je te le donne demain. Voilà. Donc ça, c'est le geste namasté, ça veut dire que vous touchez le cœur, ici le cœur, pas le cœur physique, mais le cœur, la bonté. Et puis ça veut dire, je vois ton potentiel d'être bon, puis d'avoir un bon cœur, et je le salue. Je salue ton bon côté.
Ah oui, oui.
Voilà. C'est joli, hein? Mm-hmm. C'est pas un geste officiel du Bouddha. Yes, jamais. Voilà. Et puis ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout, le montrer dans la maison des religions.
Très bien, ouais.
Hein? Si y a les images de vous, vous pouvez les mettre un peu de côté. Là. Voilà. Après, je leur montre ça et je leur demande qu'est-ce que ça leur fait sentir dans leur corps ou dans leur cœur. Ou ce que ça veut représenter. Après, comment avoir un bon cœur, comment on fait, ça c'est, on écoute dans le bouddhisme, après il faut réfléchir si ça nous convient ou pas, et après il faut méditer dessus. Donc ça c'est important, hein, ces trois choses, surtout, tous les trois sont importants. Mais ça aussi, c'est important. Il faut voir si ça nous convient. Parce que si ça ne nous convient pas et vous essayez de méditer dessus, ça ne va pas marcher pour transformer l'esprit. Après, je leur dis comment on fait. Et puis, je leur montre les maîtres. Je leur dis qu'un maître vivant, c'est très important dans le bouddhisme. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous remarquez quelque chose ici?
C'est que des hommes.
Voilà, c'est que des hommes. C'est pour ça que j'ai fait celui-là.
Ah,
où il n'y a que des femmes. pour leur montrer que, voilà. Surtout pour les occidentales, il y a plutôt plus de femmes très célèbres, comme ces quatre ici, que des hommes célèbres. Les hommes, il y a Mathieu Ricard, mais autrement, dans la tradition tibétaine, il n'y a pas vraiment des occidentaux qui sont vraiment célèbres, comme les femmes. Voilà, après, je leur montre ça. Ça, j'aime beaucoup.
Ah, oui, celle-là.
Ouais.
Après, je leur demande tout ce qu'ils ont en commun, donc c'est les quatre nobles vérités, donc dukkha, après l'origine de la souffrance, le karma, et puis les afflictions mentales, et puis après ils doivent deviner ce que c'est. Donc, après je leur dis aussi, ça c'est pas en ordre au fait. Bon, pourquoi on a des afflictions mentales? Justement parce qu'on a des erreurs cognitives vues fausses. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien traduit, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Oh. Pardon. Là, on voit les choses qui sont impermanentes comme permanentes. On confond le plaisir avec le bonheur. On projette un véritable jeu au soi où il n'y a qu'un jeu qui existe en dépendance du corps et de l'esprit. Donc, c'est dit d'une façon assez simple, parce que sinon on va le comprendre. Et puis après là, tu vois, le conflit.
Oui.
Est-ce que tu leur demandes, est-ce que c'est un 6 ou est-ce que c'est un 9? Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que vous diriez, vous?
Les deux.
Ça peut être vraiment les deux. Est-ce que ça peut être un vrai 9 et un vrai 6 en même temps?
Ça dépend de où, du point de personne.
Exactement. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être un vrai 6 et ça ne peut pas être un vrai 9. C'est juste différent, et puis ça dépend d'où on regarde. Et avec ça, on peut résoudre beaucoup de conflits en disant, ok, l'autre, il a une autre vue, ma vue à moi, elle est juste différente. Mais nous, on va toujours dans l'extrême. S'il y a des vues qui sont opposées, la mienne, elle est juste, et la tienne, elle est fausse. C'est pour ça, le 6 et le 9. Après ça, est-ce que c'est un animal blanc avec les traits noirs ou est-ce que c'est un animal noir avec les traits blancs? Voilà, c'est comme le 6 et le 9, c'est ni l'un ni l'autre, vraiment.
J'ai pensé à ça.
Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi comme émotion négative?
L'avidité.
Ouais, le désir, l'avidité, là. C'est un ado qui a dessiné ça, qui a fait ça, parce que c'est un peu trois dimensions, là.
Mm.
C'est quand il y a les bras qui sortent, et puis tiens, le bout de papier, là, là. Comme ça. Ça, c'est...
Oh, oui. La colère.
La colère.
Est-ce que vous avez vu le film?
Oui.
Ouais, il est super, hein. Ça, aussi, pour les bouddhistes, c'est vraiment bien à voir. Nos émotions qu'ils ont des personnalités au fait.
Oh.
Mais aussi, c'est important de voir, surtout maintenant qu'on parle de bodhicitta, si jamais qu'on arrive à parler de bodhicitta, qu'est-ce qu'on en sait là avec moi qui va toujours d'un bout à l'autre. Le film, il est vraiment bien fait et puis il est très bouddhiste de voir que toutes les émotions, ils ont une place. Que, tu vois, là, c'est seulement quand ils deviennent obsessifs que ça devient dangereux. Mais des fois, il faut la force de la colère. Enfin, peut-être colère, ce n'est pas le bon mot. Il faut la force d'être disturbed, être dérangé. La force que ça vous donne, cette force pour que vous pouvez changer quelque chose, il la faut. Parce que si vous êtes complètement paisible, vous vous dites, ouais, ben, tout est vide. Et tout est impermanent, et puis de toute façon, je vais pratiquer la patience. Là, vous servez du dharma presque comme poison. Pourtant, c'est médecine, tu vois. C'est là que vous prenez la... C'est faux. Et après, si la colère vous saisit, et puis vous réagit de la vue de la colère qui est trop chaude ici, ou qui est trop froide, hein, il y a aussi la colère froide. Quand on gèle, est-ce que vous pouvez partager votre joke?
Christine est allée aux toilettes.
Elle va se libérer de sa colère.
Comment s'appelle ce film?
Et comment s'appelle le film?
Le film, je ne sais pas comment il s'appelle en français.
En français, c'est vice-versa.
Inside Out en anglais et puis s'appelle Alles steht Kopf en allemand. Je l'ai ici, mais je l'ai seulement ou en anglais ou en allemand. Enfin, tu vois, je crois que je l'ai en allemand avec les sous-titres turcs.
En français, ouais. C'est vice-versa.
Ah, vice-versa.
Ah, vice-versa.
Ouais. Il est vraiment bien parce que ça nous montre comment, par exemple, aussi, il y a une. Et puis tous ces. Toutes ces émotions, ils ont une forme. Et puis, on voit aussi que le chagrin, en fait, tu vois, qui est toujours là, et puis il y a la joie. Après le chagrin, il y a l'attention ou la peur, la prudence, je crois. Hein. Il y a la prudence, il y a la colère, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a cinq. J'ai tous les cinq. Bon, et puis après, la joie, elle est un peu obsessive, tu vois, elle est toujours, ouh, ça va être bien, allez, venez. Et puis le chagrin, elle est une fille, hein, elle est un peu grosse, mais oh non, j'ai pas envie, de toute façon, ça va pas marcher, et tout ça. Mais à la fin, parce que tout va mal dans la vie de cette famille, à la fin, c'est le chagrin qui réveille l'amour. Il refait la connexion. Parce que c'est vrai, quand vous remarquez la connexion que vous avez avec quelqu'un elle est beaucoup plus profonde que la connexion que vous avez avec quelqu'un qui est toujours bonne humeur et puis qui n'a jamais de problème. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Hein? L'amour, elle est beaucoup plus profonde quand on se connecte dans le chagrin que dans le youhou, everything is okay. Mm. Voilà. Ça, c'est la colère, vous avez remarqué. Donc là, il y a les désavantages de la colère. Ça, ça va bien parce qu'on va parler aujourd'hui de l'équanimité, donc ça peut nous aider aussi. Pour pouvoir se libérer de la colère, quand on n'est pas en colère, c'est bien de voir les désavantages. Donc, pour moi, le désavantage le plus grand, c'est qu'il n'y a rien qui fait plaisir quand vous êtes en colère. Oui, c'est ça, tu vois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de calmer quelqu'un en lui donnant, une part de gâteau au chocolat.
On n'a rien à faire.
Voilà, j'aime pas, on dit même on adore ça. Il nous a acheté notre gâteau de chocolat préféré. Il veut nous le donner quand on est en colère. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On dit, et puis en plus, on est persuadé. J'aime pas, parce qu'en ce moment, vous avez aucun plaisir. La paix intérieure est détruite, on ne peut plus se concentrer, on perd la raison. Une des meilleures qualités d'un esprit humain, ça mène au conflit, détruit des amitiés, peut te mener à meurtre, on ne te fait plus confiance. Les gens ne se sentent pas en sécurité si tu es parmi eux, détruit la bonne ambiance, tu deviens un monstre, dis des choses. Oh, que ça devrait être un cue, tu dirais jamais. Si tu n'es pas en colère, là aussi il y a peut-être un S ici, non?
Oui, oui, tout à fait.
On devient seul, pas de paix, ni intérieur, aux extérieurs. Bah, tu sais, quand je montre aux enfants et puis je fais des fautes, là, à eux, ça les rassure un peu aussi.
Alors laisse.
Je peux faire des fautes et puis pas être détruite et puis dire, oh, je suis désolée, tu vois. Non, je crois que je vais laisser. Là, c'est quoi ça?
Des bananes.
Ah ouais. C'est souvent qu'ils disent ça, les enfants aussi. Là, c'est des bananes. Oui. Mais comme émotion, qu'est-ce que ça?
Est-ce que ça serait la jalousie?
Oui. Ah, oui, c'est aussi.
Et si on n'a pas encore compris, c'est, ça sera ça.
Ah ouais.
Oh,
voilà. Et ça?
L'arrogance.
Ah ouais. Ça, c'est formidable, ça.
Ah ouais.
Vous comprenez, hein? Ah. Oui.
Ouais. Ça, c'est le plus vicieux.
Ouais. Ça, c'est vraiment l'ego. Et what you want? Problems. Donc, qu'est-ce que vous voulez des problèmes? Pourquoi? Pour être la victime. Et puis, est-ce que ça vous plaît? Yes! Parce que là, l'ego, il est très grand quand on a des problèmes. Donc, ça, c'était la deuxième des quatre nobles vérités. Maintenant, c'est la troisième, la cessation de la souffrance. Libération de la souffrance et les causes de la souffrance. Voilà. Donc, comment après, il y a le chemin. C'est on unit sagesse et compassion, développement du bon cœur et esprit clair. Et puis là, il y a Einstein que vous avez déjà vu. Là aussi, c'est bien. Là aussi, c'est bien parce que c'est le cœur et le cerveau. Donc, il faut les deux. Et puis là, voilà, ça, c'est la dernière. C'est joli, ça aussi, non?
Ouais.
Ouais. Voilà, ce truc de l'ego, au fait, les gens qui ne connaissent pas le bouddhisme, ils rigolent pas. Ils ne comprennent pas le joke.
Ah.
Ouais.
Ok.
Il y a eu des chats encore ici. Confiance. Peut-être que je suis spéciale est un fait culturel et religieux puisque chaque être est censé avoir été créé à l'image de Dieu. Ouais, mais pas toutes les religions aussi. Tu sais, les bouddhistes aussi, Bruno, ils se sentent spéciaux. C'est pas seulement les chrétiens et les juifs. Les juifs peut-être spécialement, oui, parce que c'est the chosen ones, donc ils ont double problème. Mais tu vois, cet argument que c'est un truc culturel, religieux, tout ça, bon, bah oui. De toute façon, c'est une condition pour être comme ça. Mais les conditions, on peut les changer. Quand on voit que ça ne nous apporte rien, Est-ce que quelqu'un regarde des fois les enseignements de l'Amazopa qui donne de Picopan?
Oui.
Ok. Est-ce que vous vous rappelez quand il a parlé justement « Human beings are more important than God and mantras ». Que les êtres humains, ils sont plus importants que Dieu et les mantras. Et puis là, il parle tout ce truc d'être attaché. Ma religion, mon peuple, ma race, mon genre, mon pays, mon this and that, ça crée beaucoup de problèmes. En plus, ça crée des guerres.
Mmh. Ouais.
Tu vois, donc, la religion, c'est pas fait pour se sentir mieux que les autres qui ont une autre religion. Ça, c'est une autre vue fausse, moi, je crois. Parce que la religion, ça devrait être fait pour, justement, pour être bénéfique aux autres, pas seulement pour soi-même, pas seulement ceux qui ont votre religion, tu vois. Donc, moi, je ne pense pas que c'est la faute à la religion. Moi, je pense que, au fait, c'est la faute à... Parce que nous, on ne comprend pas. Parce qu'on a, tout détourné pour cette sensation innate. Comment on dit innate?
Inné.
Inné? Mm-hmm. Cette sensation innée qu'on a, je suis spéciale. Bon, ça peut être renforcé par la religion et puis par la culture. Et on l'a de toute façon, même si vous êtes athée. Je me suis permise de faire du print screen pour Joseph. Tu es... Ouais, ben, je peux te l'envoyer si tu veux, Sabrina.
Oui, hein? Je ne voulais pas faire en cachette, je fais sans déranger, mais je voulais te dire quand même.
Non. Si vous voulez avoir le PowerPoint, vous pouvez l'avoir. Moi, ça ne me dérange pas du tout.
C'est bien.
Vous pouvez même l'améliorer. Hein. Alors là, parce que moi, je l'ai fait toute seule. Je ne sais pas comment on fait ces choses. Et puis, voilà. Christiane, tu le voudrais aussi?
Oui, volontiers.
Ok, bah, tu sais quoi? Parce que je pense que Jean-Paul, tu as tous les emails. Jean-Paul?
Non, oui, peut-être. Alors, Séverine, peut-être tu as, toi?
Je crois pas que j'ai tout le monde,
si
non.
Si vous le voulez, vous m'envoyez un email et puis je vous l'envoie. Mon email, c'est Rita Rin. Alors, je vais le mettre dans le chat. Oui, comme ça, on n'avance pas du tout avec la bodhicitta. Hein.
C'est de la bodhicitta ce que tu fais.
Ouais, bon. Ben, tu me rassures, merci.
T'en prie.
Bon, il y a Antoinette qui essaye de se brancher, mais alors je vais peut-être l'appeler pour voir parce que ça n'a pas l'air de marcher.
Appelle. Peut-être qu'elle n'a pas le bon lien parce qu'au début, moi aussi, j'ai mis le mauvais lien.
Ouais, j'ai aussi fait ça. C'est pour ça qu'elle a
lancé la dernière fois et puis ça m'a dit que ça ne marche pas. Et puis, il y a un lien différent. Ouais. Tu sais, Séverine, tu peux faire le même lien pour toutes les. Si c'est un truc qui continue.
Ok.
Quand tu fais la planification, il y a un petit crochet que tu dois faire si ça dit plusieurs fois.
Ok.
Tu as en français ou tu as en allemand ou en anglais? Comment tu as?
Je crois que je l'ai en français.
Ouais, parce que moi, naturellement, j'ai en allemand. Alors, ça dit mehrmals, plusieurs fois.
Ok.
Donc, après, tu peux faire le même lien. Voilà, donc la bodhicitta. Donc le problème, c'est justement, c'est notre vue fausse qu'on a de soi-même et de toutes les autres choses. Donc, des choses extérieures, déjà, bon, ben, c'est pas trop grave, mais ce qui est grave, c'est qu'on a cette vue dualistique, c'est plus duel que tout ce que je vois, au fait, ou tous les autres êtres, on n'est pas connecté. On a cette sensation qu'on est séparé des autres, qu'il y a quelque chose de réel là-dehors. Mais on peut vraiment penser, par exemple, avec les sons. Quand est-ce que ça devient un son? Est-ce que le son, il est dans l'air? Ou est-ce que ça devient son quand ça, it hits the ear, quand ça devient dans mon oreille? Est-ce que le son, est-ce qu'il peut exister séparé de mon esprit?
Non.
Il ne peut pas, parce que aussi ce qu'on voit, tu vois, ce qu'on voit, c'est une réflexion dans notre esprit. Et puis les choses qu'on voit, on ne les voit pas telles qu'elles sont, parce qu'on voit quelque chose qu'on connaît, on l'a nommé, et puis après ça apparaît comme, par exemple ici, après, non, c'est mieux, après ça apparaît comme une montre. Mais de ce côté-là, il n'y a rien qui vient qui dit « je suis une montre ». La montre, elle n'est que dans notre esprit. C'est pour ça que cette chose-là, c'est quelque chose, mais ce n'est pas une vraie montre. C'est une montre qui existe en dénomination, parce qu'on lui dit montre. Bon, après, il y a des parties, et puis on peut la séparer. Mais puis, on ne trouve aucun atome ici dedans qui est montre. Alors, on dit tous oui, 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 oui. Et puis après, quand vous regardez quelque chose comme ça, qu'est-ce qui apparaît? Montre. Montre. En plus, si cette montre est la mienne, et quelqu'un la casse, ou quelqu'un la vole, alors cette montre, elle devient beaucoup plus importante que la montre de Sophie, par exemple. Voilà. Ou si quelqu'un vole la montre Rolex de Roger Federer, moi je m'en fiche, hein, parce que de toute façon, je ne les paye pas. En plus, on lui donne l'argent pour porter une montre Rolex.
Ouais.
Eh oui. Voilà. Donc, quand ça devient intéressant ou important, c'est quand on regarde chez nous dedans. Et puis, on parle du jeu. Cette projection qu'on a un jeu vrai, inhérent. Donc, pour notre bonheur, on a deux ennemis. Dans notre vie, on a deux vrais ennemis. Qu'est-ce que ça pourrait être?
L'ego.
Et l'autre? Peut-on remplacer le mot spécial par différent? Oui, on peut, mais je préfère quand même spécial parce que, tu sais, ou spécialement mauvais. Différent, c'est assez neutre, au fait. Si tu dis différent, ça aide. Au fait, si tu dis différent, ça te ramène à ce qui est, à la réalité. On est d'un côté différent, ce qui me ramène justement à vous demander aussi, oui, Bruno, l'ego et les vues erronées, oui, un peu. Est-ce que vous avez des autres opinions? Parce que je vous ai demandé la dernière fois, s'il vous plaît, faites une liste, comment vous êtes complètement différent des autres, et faites une liste que vous avez en commun avec les autres. Est-ce que vous avez fait ça?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Hier, j'ai eu une réaction face à une situation complètement différente des autres. Et c'est-à-dire que personne n'a réagi. J'étais la seule à réagir et à exprimer ce que je pensais, et le fait que personne ne réagissait, je me suis sentie très très mal, en fait, très très mal à l'aise.
Mm-hmm. Ouais.
Et voilà, je sais pas si en fait, le truc c'est que, non, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important, mais je sais pas si à ce moment-là, j'étais spéciale en étant, pas bien dans le côté négatif, ou bien est-ce que j'étais seulement différente parce que je réagissais différemment en disant ce que je ressentais?
Non, c'est dans ces moments-là, on ne voit plus ce qu'on a en commun avec les autres.
Oui.
Parce que tu vois, tu aurais pu te dire, ok, je me sens vraiment mal à l'aise. Comme tous les autres qui sont dans cette situation aussi, ils se sentent mal à l'aise. En anglais, on dit « you put on the spot », si on te met dans le spotlight. Donc, si tu veux être dans le spotlight, ok, si tu as choisi d'être dans le spotlight, tu aimes être dans le spotlight, mais si tu es là, tout le monde te regarde parce que justement tu as cassé quelque chose ou tu as fait un bruit qu'il ne fallait pas faire ou tu as pété ou je ne sais pas, tu vois, des choses comme ça, on se sent très très mal à l'aise et on ne voit plus à quel point on a beaucoup de choses en commun parce que ça, c'est ça, tu n'étais pas unique en te sentir mal à l'aise. Mm-hmm. Tu vois, là, tu te sentais unique. C'est toi-même qui as créé ce truc. Je me sens unique. Et puis, quand on se sent unique aussi, ce qui se passe, c'est qu'on croit que tout le monde le remarque. Et ça dérange tout le monde. Mais souvent, ils ont même pas vu, tu vois. Ils ont juste pas, ils t'ont pas écouté, puis voilà. Mmh. Mais cette chose de se sentir unique ou spécial ou séparé des autres, elle exagère de ce qui se passe. Elle projette beaucoup plus qu'on projette normalement. Tu vois? Mmh. Est-ce que ça vous a changé un peu, je sais pas, l'état d'esprit quand vous vous asseyez et puis vous écrivez tout ce que vous avez en commun avec tous les autres êtres.
Ben moi, j'ai rien écrit.
Et puis, bon, ben, tu peux penser aussi. Mais c'est bien
d'écrire. Oui, j'y ai pensé.
Parce qu'on voit que la liste, elle devient longue.
Oui, exactement.
Tu vois. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose où vous êtes unique? Hein?
T'as trouvé quelque chose? Ah, t'étais pas là la dernière fois. Mon ADN.
Oui, l'ADN. Mais tout le monde a un ADN.
Ouais.
Toi, ton ADN, ok, il est unique, mais tout le monde en a un. Donc, c'est pas aussi unique qu'on le croit. Les enfants, souvent, ils disent fingerprints, les empreintes. Et ça aussi, tout le monde a des empreintes. Est-ce que vous avez trouvé des choses qu'on a en commun?
Oui.
Ben tout, oui.
Tout, oui. Par exemple.
Le corps, l'esprit.
On a besoin de manger.
Mm-hmm. Voilà, ben, on a besoin d'amour, de reconnaissance.
Mm-hmm. Oui.
D'aller au polaire. Mm-hmm.
Exactement. Donc, on trouve beaucoup de choses. Donc, on voit qu'on se sent, tu vois, si je dis, oh, je suis unique, ADN, c'est pas, tu vois, c'est pas, waouh, j'ai mon ADN. Tu vois, ça fait pas. Tandis que si on voit ce qu'on a en commun avec les autres, surtout notre vulnérabilité, tu vois, là, on se sent plus unique, seul. On voit, oh, tout le monde veut être heureux. Il n'y a personne qui veut être malheureux. Hein? Voilà. Donc les deux ennemis, Bruno, il est sur une trace assez juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des idées, les deux ennemis qu'on a?
Le chérissement excessif de soi.
Employer des termes bouddhistes, si possible.
La dualité.
Oui, mais la dualité, ouais. Non, la dualité, c'est juste une vue fausse, quoi. C'est pas vraiment une ennemie. Mais ça a à voir avec ça, ça c'est vrai. Et si vous pensez à bodhicitta, parce que vous avez tous eu des enseignements sur la bodhicitta, essayez d'employer des termes bouddhistes. Mariana,
le chérissement excessif de soi.
Ah ouais.
Ok, un c'est le chérissement de soi, donc. Et l'autre qui vient avant.
L'attachement.
La saisie d'un vrai je. Ok, parce qu'il y a self-grasping and self-cherishing. Comment vous dites ça en français? Est-ce que vous faites vraiment une différence? Parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux.
C'est la saisie du soi et l'auto-chérissement en français.
Ok, donc c'est la saisie du soi. La saisie du soi vient de cette vue fausse. Ou vient de voir les choses en dualité. Ok? La saisie du soi, ça vient de ne pas voir la... emptiness, la vacuité. Ça vient de ne pas voir que le jeu qui existe, oui, il existe, mais il existe, qui, c'est en dépendance corps et esprit et beaucoup d'autres choses. Hein. Et le moment où il y a une saisie de soi, en même temps, il y a self-cherishing, il y a l'auto-chérissement, l'auto-chérissement. Donc, ce qu'on fait souvent dans la bodhicitta, on essaye de travailler avec l'auto-chérissement sans travailler avec la saisie du soi, sans travailler avec la vue fausse. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que quand il y a vue fausse, automatiquement, il y a l'autre aussi. Est-ce qu'il peut avoir un self-cherishing, un chérissement de soi sans vue fausse? Ça, c'est pour les érudits bouddhistes.
Est-ce qu'il peut avoir un chérissement de soi sans les vues fausses?
Mm-hmm. Non.
Je ne sais même pas si c'est vrai, ça vient de, si vous étudiez la philosophie, Grounds and Paths, si vous étudiez le... non, ok, Sylvie dit non.
Je ne sais pas.
Si vous dites oui, il faut me donner un exemple. Donc, vous êtes plus sûr de dire non. C'est cruel, hein, tout ça. Séverine, elle le sait peut-être. Séverine, si je te le dis, tu dis ah oui.
Mais moi, je dirais non, parce que du moment qu'on voit comment les choses, elles existent, on ne peut pas être dans l'auto-chérissement.
Subtil, hein, l'auto-chérissement, il est très subtil. On parle d'un arhat qui ne va pas pour full enlightenment, qui ne va pas pour le plein éveil, qui reste dans son nirvana. Ou un bodhisattva, en fait, un arya bodhisattva, ils disent jusqu'au huitième bhumi, il y a encore une petite forme de self-cherishing. Par exemple, waouh, je suis vraiment super. Ben, c'est ce qu'ils disent, hein. Ça c'est dans les livres. Donc c'est possible, oui. C'est un peu, parce que vous, tu sais, parce que tu perds pas le jeu conventionnel. Le jeu conventionnel, il est là. Donc moi aussi, ça me paraît un peu bizarre qu'il y a encore du chérissement de soi dans les arhats, mais on dit oui. Enfin, les maranistes, ils disent oui.
Rita, j'aurais une question.
Oui.
Si on se complaît dans un bien-être méditatif,
ouais.
C'est de l'auto-chérissement.
Ça dépend de ta motivation, pourquoi tu le fais. Ça peut très vite partir là. Très, très vite. Et ça, tu vois, par exemple, quand tu es bon en méditation, tu vois, tu n'as pas de souffrance, tu es vraiment bien. Parce qu'on voit des gens qui sont comme ça, ils sont complètement à l'aise, ils peuvent être assis des heures et des heures et des heures, ils font des longues retraites et ils ont horreur de sortir de la retraite. Donc, ils se mettent en retraite pour demeurer dans cette paix intérieure où tout le monde est bien. Ou des mamans, par exemple, quand ils vont faire une retraite, un week-end de retraite, et puis ils rentrent, ils ont des ados ou des enfants, et puis ils pensent que quand ils rentrent, ils viennent, tu vois, avec plein d'amour, plein de compassion, et puis ils disent, oh, maintenant, cet amour, elle va pour mes enfants, et puis pour mon mari, et tout ça. Ils rentrent à la maison, et puis c'est un bordel pas possible, ils ont tout cassé, enfin, ils n'ont rien rangé, ils n'ont pas lavé la vaisselle et tout ça, et puis toute cette paix, et puis tout cet amour, tac, tu vois. Et puis après on dit, vous me détruisez ma paix intérieure, en plus. Quand vous sortez de retraite avec le cœur complètement ouvert, avec beaucoup d'amour pour vous, là, il faut aller à la maison et puis avant de rentrer dans la maison, il faut se dire, ok, je veux qu'il profite de cet amour n'importe le bordel qu'il y a dans la maison. Parce que le bordel, il n'est pas important. Le bordel, on peut nettoyer, quoi. Ce qui est important, c'est les human beings, c'est les êtres. Donc, s'il y a un bordel, ils vous font une faveur pour voir à quel point vos so-called réalisations ils sont stables.
mise à l'épreuve.
Oui, et puis ça devient comme un exercice. Tu vois, si tout est rangé, tout est calme quand vous revenez à la maison, et puis bon, l'amour il est encore là, le cœur il est ouvert, vous croyez que vous êtes réalisé. Et vous dites, ah, j'ai plus besoin d'aller en retraite. Ça va, je suis Bouddha, je suis paisible, j'ai amené ma paix à la maison. Je donne à mes enfants et puis à mon mari, tu vois. Alors, si vous rentrez avec plein d'amour et puis beaucoup d'ouverture, espérez qu'il y a un bordel à la maison. Et puis, quand il n'y a pas, vous êtes déçus.
Ouais. D'accord. OK.
Tu vois, donc, tout ce qu'on fait, c'est pour ça. L'Amazon, quand il dit toujours, la bodhicitta, elle est tellement importante parce que vous pouvez inclure aller aux toilettes avec bodhicitta. Que quand tout ça, le corps il n'a plus besoin, quand tout ça sort, vous pensez que tous les êtres ils puissent se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin, les afflictions mentales, les bufos et tout ça. Quand vous ouvrez une porte, vous dites May I open the door for all beings, puissais-je, il y a quelque chose en français, ce puissais-je, moi ça me. Pas du tout, alors là, j'ai pas de bodhicitta. Mais aïe, puissais-je ouvrir la porte du nirvana, de la libération et l'éveil pour tous les êtres. Quand tu fermes une porte, tu penses, puissais-je fermer la porte pour les renaissances inférieures à tous les êtres. Quand tu coupes les carottes, tu dis, puissais-je couper mon ego, pas moi, mais mon ego.
C'est ton histoire.
Tu vois, il y a toute une liste comme ça. Je crois que c'est dans le livre doré ou argenté, dans le Daily Dharma, le Dharma au quotidien.
J'ai une expérience à partager, le Sang.
Quoi? Oui.
Jeudi ou non, quand c'était mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des nettoyages à la maison. Mm-hmm. On a nettoyé les stores extérieurs. Et puis la voisine qui n'était pas très loin nous a vu faire. Et puis elle nous a dit, ouais ben il faut bien pas savoir quoi faire pour nettoyer des stores. Et puis j'ai trouvé intéressant parce que en fait on a essayé avec Anne-Catherine en ce que tu viens de dire par rapport à comment utiliser en fait une activité quotidienne, une activité de nettoyage pour enlever l'obscurité de tous les êtres en nettoyant les stores. Et seulement la personne, elle voyait quelque chose qui était complètement, comment je dirais, pas inutile, mais faut bien pas savoir que faire. C'est dit, quand ils ont trouvé quelque chose parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur vie.
Ouais. Ouais,
c'est vraiment intéressant. Puis ça change complètement, en fait, le ménage, de faire la cuisine, etc. Le quotidien change complètement dès le moment où tu as cette idée. Une petite idée, une petite pensée, une petite motivation, ça suffit pour changer complètement l'action dans laquelle on est.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Merci Jean-Paul. C'est exactement ça. Donc, vous pouvez tout transformer en bodhicitta. Ou quand vous mangez quelque chose qui est vraiment bon, tu vois, que vous pensez que tous les êtres peuvent éprouver ce bon goût. Comme ça, ça devient encore plus délicieux en plus. Parce que le goût, qu'il soit bon ou mauvais, il n'est pas dans le manger, ça vous connaissez, parce que ça peut être le même plat ou le même gâteau du même magasin, et puis un jour il est délicieux, puis un autre jour quand vous êtes mauvais poil, il n'est pas du tout bon. Donc ça ne peut pas être les choses extérieures, c'est notre vie intérieure, quand c'est délicieux, c'est du karma positif qui mûrit, et puis quand c'est dégueulasse, c'est le karma négatif qui mûrit, et puis voilà. Et donc, si vous avez des souffrances ou si vous n'êtes pas content, que vous dites que personne ne puisse éprouver ces problèmes et tout ça. Puis en plus, vous faites du tonglen, et puis vous prenez les... Bon, moi j'ai déjà des problèmes. L'important, c'est que les autres, ils n'en ont pas. Et puis vous prenez le reste des problèmes des autres aussi, tu vois. On peut tout transformer. Ou Christiane, quand tu te sens mal à l'aise dans cette union, réunion de gens, tu peux te dire que personne ne doit mais nobody experienced that negative feeling. Sensation négative. Parce que comme ça, tu t'ouvres. Parce que si tu es concentré que sur ton ego, il devient tellement grand et le problème, il est immense. Tandis que si tu te sens là, tu te sens plus seul. Parce que tu te connectes avec les autres. Ça, c'est un bon exercice. Vraiment, chaque fois que votre esprit dit « Waouh, c'est beau !» Que vous dites « Oh, mais oh, Vince, que tous les êtres ils puissent avoir cette belle vue ou manger ou quoi que ce soit. Hein? » Voilà. Donc, ces deux ennemis, le saisie de soi et l'auto-chérissement, donc il y a deux antidotes pour ça. Et c'est les deux bodhicitta. Est-ce que vous vous rappelez des deux bodhicitta? Il y a deux fois deux bodhicitta. Hein? Déjà, d'abord, peut-être, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, mais je ne vois personne qui est nouveau, est-ce que tout le monde sait ce que c'est la bodhicitta? Si vous me dites oui, je vais vous demander. Hein.
Ouais, on a Séverine.
Ouais. Oh, pauvre Séverine.
J'ai besoin d'explications.
C'est Joachim. Tout le monde, quand je pose une question, quand ils sont là, tout le monde regarde. En plus, il sait toutes les réponses. Alors, les deux bodhicitta. Ah, non, déjà, qu'est-ce que c'est bodhicitta?
C'est une aspiration.
Quelle aspiration?
L'aspiration à vouloir quitter ce cycle de souffrance, de samsara, mais pas seulement pour nous.
Mais
pour pouvoir aider, pour devenir un Bouddha, afin de pouvoir aider de manière exponentielle.
C'est exactement juste, Jack. C'est ça. Bodhicitta a deux aspects aussi. Donc cet aspect que moi, je veux atteindre l'éveil, pourquoi? Pour mener tous les autres à cet état aussi. Pas juste pour les aider, hein. Vraiment pour les mener là comme...
Ok.
In whatever form. Un Bouddha ou un Bodhisattva, il donne exactement, s'il peut donner, si la personne elle a le karma de recevoir, il donne exactement ce que la personne elle a besoin pour atteindre l'éveil.
Oui.
Il faut aussi que ça marche avec le karma de la personne. Parce qu'un Bouddha, il n'est pas omnipotent. Hein? Si toi, tu n'as pas le karma d'être mené par le Bouddha, il ne pourra pas te mener.
Mm-hmm. Oui. Oui.
Mais il va essayer. Il va essayer pendant des éons et des éons et des éons, exactement comme une maman ou un papa ou une grand-mère ou un grand-père. Ils feront tout pour les enfants, pour qu'ils soient heureux, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ne prennent pas de vacances. Ils sont toujours, ça, et c'est spontané, c'est naturel. Ils sont toujours concernés pour que les enfants y vont bien. Et au fait, c'est ça, c'est cette attitude, quand tu dis c'est une attitude, non, tu as dit c'est une aspiration. Oui, ça peut être une aspiration, mais c'est aussi une attitude. C'est une attitude que tous les êtres soient bien libérés de souffrance. Hein? Donc, les deux bodhicitta, il y a la bodhicitta ultime et il y a la bodhicitta conventionnelle. Ah, ça, vous avez entendu déjà. Ouais. Ah, ok. Mais ceux qui l'ont entendu, est-ce que quelqu'un voudrait peut-être expliquer à Christiane pourquoi ces deux bodhicitta? Il y a encore une fois, après, il y a encore une fois deux bodhicitta, on en parlera cet après-midi. La bodhicitta ultime, qu'est-ce que c'est? Ok. Je vais un peu. Donc, il y a la saisie de soi et puis il y a le chérissement de soi. Donc, je vous ai dit, pour ces deux ennemis qu'on a, il y a deux antidotes. Un va pour un et puis l'autre va pour l'autre. Alors, la bodhicitta ultime, c'est l'antidote pour...
La saisie de soi.
La saisie de soi. Pourquoi?
Parce que.
Sophie, t'es allumée, Sophie. Pourquoi?
Pourquoi tu poses la question?
Parce que t'étais allumée. C'était comme si
quoi?
Tu dis quelque chose. Tu sais, quand tu dis quelque chose sur l'écran,
quand t'allumes.
Quand on dit quelque chose sur l'écran, ça allume l'écran. Ça fait un cadre vert.
C'est que je suis muette en ce moment, j'ai rien dit.
Ah ben, peut-être le Zoom, peut-être le Zoom, il a lu tes pensées que tu voulais dire quelque chose.
Non,
il a senti tes vibrations de te préparer à dire quelque chose. Ok. Non,
alors, c'était quoi ta question? Parce que je suis en train de noter en même temps. Alors, c'est l'antidote ultime, c'est l'antidote de la saisie.
L'antidote ultime, c'est l'antidote pour tes deux ennemis qu'on a. Lequel des deux ennemis qu'on a, la bodhicitta ultime? On a la saisie de soi, c'est un ennemi, l'autre c'est le chérissement de soi. Donc pour lequel c'est la bodhicitta ultime, pour qui c'est l'antidote et pourquoi? On a dit c'est pour le saisie de soi, c'est Jean-Paul.
Le saisie de soi, d'accord.
Oui. Pourquoi? Maintenant la question c'est pourquoi? Ben, c'est évident.
C'est la saisie de soi,
Vous vous rappelez dans le PowerPoint, les deux ailes, les deux parties du chemin. Une, c'est sagesse.
Sagesse et méthode.
Et puis l'autre, c'est méthode. Donc, la bodhicitta ultime, c'est sagesse. Ça, ça travaille avec le... que justement, ce jeu, il n'existe pas. Ça travaille avec la gratuité. Et la bodhicitta conventionnelle... C'est pour l'autre ennemi qui est l'auto-chérissement. Et puis qu'est-ce qu'on fait là? Donc, c'est la méthode ou la compassion.
La compassion.
Donc on génère la compassion ou on développe la compassion conventionnelle déjà maintenant, de ne pas faire du mal aux autres, de pratiquer les six perfections. C'est pour ça qu'il y a ces deux bodhicitta pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse se libérer de ces deux ennemis. Okay. Après, il y a encore une fois deux bodhicitta. Donc, bodhicitta, de nouveau, l'esprit d'éveil. Une attitude d'atteindre l'éveil pour que je puisse, moi, amener tout le monde là-bas aussi. Okay. Ça, c'est bodhicitta, l'esprit d'éveil. Donc, il y a deux.
Inspiration et engagement.
Hein?
Est-ce que c'est la bodhicitta d'aspiration et celle d'engagement?
Oui, exactement. Et la bodhicitta d'aspiration, elle est importante au début parce qu'il faut que vous soyez inspiré par ce que vous entendez. Ah, ça c'est un bon truc, ça je veux faire, tu vois. Parce que si vous dites, oh non, merci, alors je souffre déjà assez, alors si je dois mettre le bonheur des autres devant le mien, ben non, merci, je vais avoir plus de problèmes. Hein? Pour ça, il faut que ça vous inspire. Et puis après ça, on a justement l'aspiration. On dit, ça c'est un bon truc. Moi, je voudrais avoir la bodhicitta. Je voudrais avoir cette attitude impulsive, c'est peut-être pas un bon mot. Instinctif. Comme l'amour d'une mère, d'un père est instinctif, moi, je voudrais avoir cet amour, cette compassion pour tous les êtres. Mmh. Franchement, est-ce que ça ne vous fait pas peur?
Ben, ça semble, a priori, impossible.
Non.
Au prime abord.
Pourquoi?
Venir en aide à... Puis-je devenir un Bouddha? Puis-je venir en aide à tous les êtres? On est limité par notre corps, quoi. Je peux aider personne, je peux aider trois, etc. Je peux aider un certain nombre. Après,
attends. Ouais, super, Jacques. C'est bien que tu l'as dit ça. Ça ne veut pas dire tout le monde en même temps.
Ah oui.
Ça veut dire sans exception. Ça veut dire chacun qui est là et je peux l'aider, je vais l'aider. Pas tous en même temps, même le Dalai Lama, il ne peut pas donner des enseignements à tout le monde en même temps. Il faut que les gens ils soient là.
Ok, d'accord, ouais.
Mais c'est bien ce que tu as dit, parce que c'est souvent c'est cette idée. Waouh, tout le monde en même temps. Mais comment je vais faire? Et puis autrement, ça ne vous fait pas peur. Parce que là, déjà, cette peur-là, maintenant, elle est partie. Donc,
non, moi, je pense que c'est plutôt libérateur d'imaginer un jour pouvoir aimer tous les êtres. Ça fait vachement envie.
Voilà. Super. Exactement. Imaginez que tu ne dois plus être en colère avec personne. Mais après, si, quand je fais des introductions au bouddhisme avec les ados ou les enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'ils me répondent?
Ils ont la notion d'ennemi qui est quand même bien ancrée, comme on l'a tous, quoi. Il y a quand même des gens qu'on n'aime pas.
Ouais. Et puis c'est normal. Et puis, si je ne suis pas en colère avec plus personne, je ne vais pas être protégée, je vais souffrir, tout le monde va me regarder comme un lâche, et puis un coward, comment on dit lâche, coward?
Oui, lâche.
Hein?
Lâche, oui.
Oui, lâche, ok. Et puis je vais être complètement malheureux. Donc ça c'est, parce que la question que Sophie, la réponse que Sophie nous a donnée, je pense que c'est une réponse après avoir écouté le bouddhisme ou des pratiques spirituelles pendant longtemps. Que slowly, lentement, on arrive là en disant « Ah, au fait, la plupart de mes problèmes seraient finis si j'arrive à avoir un cœur ouvert pour tout le monde. » Mais au début, on ne pense pas du tout comme ça. Et puis des fois, nous aussi encore, on a inné, on a encore cette attitude. « Ah, mais la colère, il me la faut. Mais comment est-ce que je vais aimer, Mr. Trump ?» Voilà, ça me fait rigoler. Au lieu de me dire maintenant, « Mais oui, mais celui-là aussi, mais oui, mais celui-là spécialement, il faut l'aimer. » Vous rigolez quand je donne juste le nom. Voilà. Donc, le premier pas, justement, pour développer la bodhicitta conventionnelle, donc comme Jean-Paul dit, on trouve que c'est quelque chose de valable, on trouve que c'est quelque chose de bien de faire, on trouve que c'est quelque chose où ça vaut la peine de s'investir. Parce que, et puis ça peut être égoïste, parce que c'est bon pour moi aussi. Et puis cet égoïsme, on a besoin au début. Parce que si on essaie de faire le coup, c'est presque fini, là. Si on essaie de faire le pas de l'égocentrisme en un pas jusqu'à le chérissement de l'autre, on va se casser la gueule.
Oui.
Voilà. Ça c'est le français que moi j'ai appris à Paris dans les rues et à Cannes, c'était dur. Hein. Comment on dit gentiment en français à se casser la gueule?
Bah, se scratcher.
En français.
En français. Se casser la figure.
Se casser la figure. On va échouer.
S'écrouler.
On va se faire du mal. On va se faire du mal parce qu'on va aller beaucoup trop vite sans avoir fait les étapes au milieu. Et puis, parce qu'on a compris dans la tête, s'écrouler, ok. Non, vraiment, se casser la gueule, s'écrouler, c'est pas assez. C'est vraiment, on va se faire du mal, on va se heurter. Parce qu'on a compris dans la tête, et puis parce qu'on a compris dans la tête, on croit qu'on est prêt à le faire, et puis on voit qu'on n'est pas prêt. Et puis on voit son égocentrisme, on voit sa colère, on voit qu'on essaye, mais on est quand même égoïste et tout ça. Et puis on va finir par se haïr nous-mêmes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous êtes jugé pour ne pas être un bon bodhisattva?
Oh oui.
Ouais. Et puis ça aide? Ça aide pour devenir mieux?
Non.
Voilà, parce que ça nous coupe notre... Ça nous coupe notre estime en nous. Et c'est pour ça, justement, cet après-midi, je pense que vous avez bodhicitta aspirational bodhicitta, la bodhicitta d'aspiration. Après, on va se demander, avec cette aspiration, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je procède? Et on ne va pas tout de suite sauter dans les textes, Lojong, huit versets, j'enseigne pratique d'un bodhisattva et tout ça. On va d'abord aller pas par pas pour développer la bodhicitta, pour après avoir bodhicitta d'engagement. On dit comme ça, engaging, où on prend les vœux de bodhisattva et tout ça. Hein? Donc on va regarder les pas qu'on va faire pour slowly, pour familiariser l'esprit gentiment de spotlight. Comment on dit spotlight? Le spot, c'est le...
Les projecteurs.
Sur la scène. Hein?
Les projecteurs.
Oui, voilà. On va s'habituer gentiment les projecteurs sur moi. On va gentiment tourner maintenant les projecteurs sur les autres. Et sur tous les autres. Ça, c'est important. Que déjà, au début, on se familiarise avec ce truc sur tous les autres, pas en même temps, mais sur tous les autres, sans discrimination. Donc, c'est l'équanimité, puis on va faire ça cet après-midi. On va essayer aussi de faire une réflexion dessus, et puis de parler d'équanimité. Peut-être qu'on arrive au deuxième pas. On verra how far we go. Bon, maintenant, bientôt c'est midi. J'espère que vous avez quelque chose à manger. Est-ce que vous avez quelque chose à manger?
Oui.
Préparé.
Donc, avant de le mettre dans le corps, aussi, on mange avec bodhicitta. On dit, je mange cette nourriture pour avoir un corps sain. Parce que si je veux pratiquer, si je veux vraiment développer la bodhicitta, il me faut un corps sain. Et surtout, après, on dit merci. Et puis, vous pensez à tous les êtres, et surtout à Mère Terre, qui permet qu'on puisse manger. Parce que tout ce qu'on mange, ça vient d'elle. Hein, ça vient de la terre, de l'eau, le vent, le soleil. Et puis, tous les êtres qui ont été involved,
impliqués,
qui ont été impliqués à que ça c'est venu sur mon assiette. Vous avez un break jusqu'à 2 heures. Je crois que c'est pas assez de temps pour penser à tous les êtres qui ont fait que justement la nourriture est dans votre assiette. Donc vous pouvez faire un peu en global. Vous dites merci et puis vous dites moi cet après-midi je vais faire la pratique pour vous. Pour que je puisse justement aussi vous donner une nourriture spirituelle, ou peut-être nourriture vraie, quoi, nourriture solide. Parce que juste spirituelle, si on n'a rien à manger, ça aide pas du tout. Donc vous faites une connexion avec ces gens, parce que les légumes, ça pousse pas de votre assiette comme ça. Même l'assiette, elle n'est pas faite par elle-même. Donc vous essayez de penser un peu aux gens qui font possible que vous avez une assiette et puis que vous pouvez manger tout ça. Et vous dites juste merci. Et puis voilà. Puis que vous dédiez la pratique justement pour leur bonheur. Et après, s'il vous plaît, enjoy. Parce que souvent, tu sais, les bons bouddhistes, ils pensent qu'on n'a pas le droit d'être heureux ou d'avoir du plaisir. Ayez du plaisir avec ce que vous mangez. Parce que sinon, tous les efforts qui ont été faits pour que la nourriture, elle arrive sur votre assiette, elles sont pour rien. Parce que vous n'avez pas du plaisir à manger. Vous avez un devoir d'éprouver du plaisir quand vous mangez votre nourriture. Envers ceux qui ont bossé vraiment dur dans les champs. Salut Carole! Ceux qui ont bossé vraiment dur dans les champs et tout ça, vous faites ça. Et puis si vous juste comme ça, écoutez, c'est pas, it's not fair, c'est pas juste. Ok?
Ok. Oui.
Alors, enjoy your lunch. Puis on se revoit à 2 heures, c'est ça?
À 2 heures, ouais.
À 2 heures. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.
Merci.
Pour avoir participé surtout.
Ouais.
Merci beaucoup.
Bon appétit.
Ouais.
Bon appétit.
Ciao.
Bonjour Sophie.
Bonjour mon petit ami. Tu vas bien? d'accord. Bisous à tout le monde. Ah, ciao, ciao.